Chapitre 32. Comment l'âme devient une même chose avec Dieu. Le disciple. D'où vient donc le véritable renoncement intérieur et extérieur des élus en Dieu dans une unité parfaite? La sagesse. De la génération et de la filiation de Dieu. Tous mes vrais serviteurs étant fils de Dieu, puisqu'il est dit dans Saint Jean, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu à tous ceux qui sont nés de Dieu. Ils participent par la grâce à la nature et à l'action de Dieu. Car toujours le Père produit un fils semblable à lui dans la nature et dans l'action. Le juste qui se renonce en Dieu par cette union avec Dieu, qui est éternelle, triomphe du temps et possède une vie bienheureuse qui le transforme en Dieu. Le disciple. Mais je ne comprends pas comment tant de créatures distinctes ont en Dieu une seule existence. Il y a toujours l'infini entre le juste et Dieu, entre la créature et le créateur. La sagesse. Mon fils, si tu raisonnes d'après les sens, et si tu veux parvenir à la vérité par la science naturelle, tu ne seras jamais capable de saisir ce que tu me demandes. Car la vérité divine se comprend mieux en ne l'étudiant pas qu'en l'étudiant. Le temps et l'éternité en Dieu sont une seule et même chose, et l'être temporel de la créature dans la nature de l'essence de Dieu n'a plus de diversité. Élève-toi au-dessus des sens et tu comprendras ce que tu désires. Le disciple fut ravi hors de lui-même et vécut 12 semaines privé de ses sens extérieurs et de leur opération. Il ne savait plus s'il était dans le monde ou hors du monde, parce que dans cette vision, il ne comprenait et ne sentait qu'un Dieu unique et simple, sans distinguer la multitude et la variété des créatures. Quand finit la vision, la divine sagesse lui dit « Qu'est-il arrivé, mon ami? Où es-tu? Et qu'as-tu compris? N'ai-je pas dit la vérité ?» Le disciple « Oui, Seigneur, il est certain que je ne l'aurais jamais si bien compris, si je ne l'avais pas éprouvé. Il me semble maintenant que je sais où tend et où aboutit la vie d'une âme qui s'est parfaitement renoncé en vous-même. Les sens saisissent beaucoup de choses distinctes, et l'esprit n'y voit en Dieu aucune différence. La sagesse. Cela est vrai parce que l'âme, par la voie du renoncement parfait, peut arriver à se perdre en Dieu avec un avantage infini, à s'ensevelir dans la divine essence, où elle ne se distingue plus de Dieu, qu'elle ne connaît plus par les images, la lumière et les formes créées, mais par lui-même. Maintenant, tu crois comprendre Dieu lorsque tu le nommes Esprit suprême, intelligence très pure, essence, bonté, vertu, amour et bonheur. Mais tu es plus éloigné de comprendre Dieu que la terre n'est éloignée du ciel. Il n'y a qu'en arrivant au centre de la divinité, qui est l'unité de toutes choses, qu'on pénètre et qu'on comprend Dieu, sans le comprendre, parce qu'on le comprend d'une manière incompréhensible, et que l'âme ne se distingue plus de Dieu. Mais tu es incapable de ce changement merveilleux où l'âme, dans l'abîme de la divinité, se transforme dans l'unité de Dieu, pour se perdre elle-même et se confondre avec lui, non quant à la nature, mais quant à la vie et aux facultés. Pour celui qui entre dans l'éternité, plus de passé, plus de futur, le présent seulement. Pour celui qui se transforme dans l'unité de Dieu, plus de distinction, un seul être, une seule jouissance. Mais cette grâce d'une union parfaite, immuable, éternel, et le partage, la félicité des bienheureux. Vous ne pouvez vous désaltérer à ces sources de gloire pendant votre pèlerinage. Vous en recevrez à peine quelques gouttes comme marque de ce qui vous est destiné. Le disciple. Ô douce sagesse, dans cet état, quelle sera l'action de l'homme avec Dieu? Perdra-t-il ses puissances et ses opérations? La sagesse. Non. Mais quand l'homme s'abîme tout entier dans son union avec Dieu et devient une même chose avec lui, il ne perd pas plus ses puissances qu'il n'a perdu sa nature. Il n'agit plus comme un homme parce qu'il voit et qu'il saisit tout dans l'unité infinie. Les philosophes considèrent les choses comme dépendantes de leur cause naturelle. Mes serviteurs s'élèvent plus haut et les considèrent comme sortis de Dieu. Il ramène l'homme en Dieu après sa mort, pourvu que pendant sa vie, il se soit conformé à la volonté de Dieu. Et dans ce changement divin, dans cette unité suprême, ils se considèrent eux-mêmes, avec toutes les créatures, comme ils y étaient dans l'éternité. Le disciple. L'homme peut-il alors se regarder comme créature, si dans l'éternité et en Dieu, il n'est autre que Dieu. La même nature ne peut être à la fois créée et incréée. La sagesse. Dans cette union, l'homme sait qu'il est créature, que quand il n'était pas, il était conforme à son idée en Dieu, et qu'il n'était autre que Dieu, ainsi que le dit saint Jean. Ce qui a été fait était la vie en lui. Je ne dis pas que l'homme soit créature en Dieu, parce que Dieu n'est pas autre que Trinité et Unité. Mais je dis que l'homme, qui est en Dieu d'une manière supérieure et ineffable, devient une même chose avec Dieu, en retenant cependant son être particulier et naturel. Il ne le perd pas. Mais il en jouit divinement. Et il vit d'une manière parfaite, puisqu'il ne perd pas ce qu'il a et qu'il acquiert ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire une existence divine. Aussi, l'âme en Dieu reste créature. Mais dans cet abîme de la divinité où elle se perd, elle ne pense pas si elle est ou si elle n'est pas créature. Elle prend sa vie en Dieu, son essence, sa félicité, tout ce qu'elle est. Et se tenant ainsi fixée et immobile en lui, sans rien dire d'elle-même, elle se tait et se repose dans cet océan du bonheur infini, ne connaissant d'autre essence que celle qui est Dieu. Quand l'âme sait voir et contempler Dieu, elle sort pour ainsi dire de Dieu. Et se retrouve elle-même dans l'ordre naturel. C'est cette connaissance de Dieu qu'on appelle la connaissance du soi, parce que la créature se distingue de Dieu, tandis que dans la connaissance du matin, elle connaît un Dieu sans image, sans diversité, et Dieu en lui-même. Le disciple. S'il n'y a aucun rapport entre Dieu et l'âme, comment y a-t-il union ? La sagesse. L'essence de l'âme s'unit à l'essence de Dieu. Les puissances et les forces de l'âme à l'action de Dieu. Et alors l'âme comprend qu'elle est unie avec Dieu, dans son être infini dont elle jouit elle-même. Le disciple. L'homme, dans cette vie, peut-il arriver à cette union? La sagesse. Oui. Non par l'effort de son intelligence, mais par ce ravissement divin qui emporte l'âme au-delà du temps. Le disciple. Et dans ce ravissement, peut-il pécher? La sagesse. S'il revient à lui, il peut pécher. Mais il ne pèche pas dans cette union, comme il est dit dans saint Jean. Celui qui est né de Dieu ne connaît pas le péché, parce que la semence de Dieu est en lui. Le disciple. Et quelle est son action dans une union si élevée? la sagesse. Il n'y en a qu'une possible, parce que la base de son union est une, comme l'essence divine. Le disciple, il perd alors l'intelligence et la volonté. La sagesse, non, mais il ne les possède que sous l'influence et l'action de Dieu. Le disciple, comment expliquer que l'âme, en Dieu, se perd tout entière? La sagesse. Elle ne comprend et ne veut d'autre chose que Dieu. Et dans son union, elle ne voit rien de créé. Elle ne se replie pas sur elle-même. Elle ne réfléchit pas dans sa propre intelligence et dans sa volonté. Mais elle est tout ensevelie dans l'abîme de la divinité. Là, elle se tait. Elle dort. Elle se repose avec une douceur ineffable. Et alors, on peut dire en vérité qu'elle se perd elle-même, non quant à la nature, mais quant à la propriété de ses puissances. Puisqu'elle ne peut comprendre et vouloir tantôt une chose, tantôt une autre, et qu'elle ne peut désirer réellement que Dieu. Et c'est là sa parfaite liberté. Car elle ne veut et ne peut vouloir que Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne veut jamais le mal, qu'elle veut toujours le bien. C'est pourquoi saint Augustin dit « Ôtez tel ou tel bien, et voyez le bien en lui-même, si vous le pouvez. C'est le bien suprême, auquel nous tendons. »